Le marquis de Rivière. Jamais je ne pense à ce brave sans songer aux anciens preux. Tout en lui était chevaleresque. Il a 100 fois affronté la mort, et la mort la plus horrible, avec un courage, un sang-froid, une persévérance inimaginable, pour servir le prince auquel il avait consacré sa vie. Et ce dévouement si complet, si constant, ne prenait sa source dans aucune ambition, mais dans l'amitié la plus vive, dans une amitié bien rare même entre particuliers. Cette affection du marquis de Rivière pour monsieur le comte d'Artois dominait en lui tout autre sentiment. Elle a pu le conduire à l'exil, à la pauvreté, dans les cachots, sans qu'il crût lui faire trop de sacrifices. « Je n'ai plus rien, me disait-il un jour à Londres. Mais, ajouta-t-il en mettant la main sur son cœur, où était toujours placé le portrait de son prince chéri, la dernière goutte du sang qui coule là est pour lui. Peut-être le sort m'a-t-il préservé si souvent parce que je dois lui être utile. Je serai bien heureux alors d'avoir échappé tant de fois à la mort. » C'est par suite d'un désir si louable qu'on a toujours vu M. de Rivière se charger des missions les plus importantes et souvent les plus dangereuses. Le repos lui était devenu étranger, ne lui semblait plus nécessaire. Il partait pour Vienne, pour Berlin, pour Pétersbourg, etc., portant au roi qui restait encore sur leur trône les demandes d'un roi tombé du sien. Il courait jour et nuit sans s'arrêter, quelquefois sans prendre de nourriture, et remplissait sa mission avec tant de noblesse et d'habileté qu'il emportait l'estime et la considération de tous les souverains et de tous les diplomates de l'Europe. Ses voyages, répétés d'une manière vraiment fabuleuse, n'avaient rien de dangereux, à part l'extrême fatigue qu'il lui causait. Mais combien de fois ne s'est-il pas introduit en France, sur cette terre, qu'il ne pouvait toucher qu'au risque de sa tête ? Dans les nombreuses courses qu'il faisait à Paris pendant le temps de la Terreur, combien de fois son zèle, son activité, lui ont-ils fait affronter la mort ? Dieu semblait le protéger. Un jour, sur le point de débarquer en Bretagne, il trouve la côte garnie de soldats. À l'instant, il saute du canot dans la mer, plonge et reste sous l'eau, jusqu'au moment où, la côte devenue libre, il lui est possible de gagner la terre. Il entrait à Paris et il en sortait, tantôt déguisé en marchand d'allumettes, tantôt sous tout autre déguisement du même genre. Il s'y tenait caché tout le jour chez un brave homme qu'il avait servi autrefois et lui était entièrement dévoué. Il ne pouvait agir que la nuit en s'exposant encore au plus grand péril. Fallait-il repartir ? Il ne parvenait souvent à se soustraire aux poursuites qu'il excitait qu'en sautant des ravins profonds, en traversant rapidement des rivières à la nage, souffrant la faim, la soif, ne pouvant prendre aucun repos. C'est ainsi qu'il parvint toujours à s'échapper jusqu'à la triste affaire de Georges. Je me souviens que, peu de temps avant cette fatale entreprise, je me trouvais à Londres avec lui, dans une maison où se trouvait aussi Pichegru. Monsieur de Rivière, qui prétendait que j'étais excellente physionomiste, s'approcha de moi et, me montrant le général français, « Observez cet homme, me dit-il, croyez-vous qu'on puisse s'y fier, qu'il ne trahira pas ?» On pense bien que j'ignorais complètement de quelle affaire il s'agissait. Mais je regardai Pichegru et je répondis sans hésiter « On peut s'y fier. La franchise me paraît siéger sur ce front-là. » Pichegru ne trahit point en effet. On sait trop qu'il est mort la première victime de cette malheureuse tentative. Le sort de M. de Rivière ne fut pas aussi affreux, quoique sa prison ait été bien longue et bien cruelle. Car il m'a raconté, à mon retour en France, que le premier cachot où il fut mis était plein d'une eau stagnante qui lui venait jusqu'à la cheville. Si l'on joint à cette situation l'idée que cette prison ne s'ouvrirait peut-être jamais pour lui, et la douleur de vivre loin de son prince bien-aimé, loin de tous ses amis, on juge de ce qu'il a dû souffrir. C'est à cette époque de malheur que M. de Rivière devint dévot, et qu'il puisa dans la religion la force qui lui était nécessaire pour supporter tant de peines et tant de privations. Après être resté plusieurs années en prison, il en sortit enfin sur sa parole d'honneur de ne point quitter la France, car Bonaparte lui-même savait ce qu'était la parole d'honneur de M. de Rivière, qu'il la respecta scrupuleusement en effet, jusqu'au jour où il eut l'ineffable joie de voir revenir les Bourbons. On sait que le roi le fit duc, qu'il fut envoyé à Constantinople comme ambassadeur dans des circonstances difficiles, et qu'enfin Charles X l'avait choisi pour gouverneur du duc de Bordeaux, quand une mort prématurée vint l'enlever à son jeune élève, à son prince chéri, et l'on peut dire à la France. Ayant appris à quel point Charles X ressentait douloureusement la perte d'un tel ami, comme j'avais déjà fait de souvenir le portrait de plusieurs personnes, j'essayai de faire ainsi celui de M. de Rivière. J'eus le bonheur de réussir. Je portai aussitôt le portrait au roi, qui le reçut avec une extrême sensibilité, et qui s'écria les larmes aux yeux. « Ah, Madame Lebrun, combien je vous suis obligée de votre heureuse et touchante idée !» J'étais plus que payée par ces paroles. Mais je n'en reçus pas moins le lendemain, de Sa Majesté, un superbe nécessaire en vermeil que je garderai toute ma vie. Le duc de Rivière était d'une taille moyenne, ni beau ni laid. On ne pouvait remarquer dans sa figure qu'une extrême finesse de regard qui, jointe à une expression de franchise et de bonté, annonçait tout le caractère de l'homme. Tel que je le dépeins, cependant, M. de Rivière a toujours fait les conquêtes les plus brillantes. Il ne les devait point à des avantages extérieurs, mais bien aux qualités de son âme, auxquelles il devait aussi tant d'amis qui lui sont restés attachés jusqu'à sa mort et ne perdront jamais son souvenir. Parmi plusieurs beautés distinguées qui ont eu de l'amour pour lui, la dernière surtout était bien certainement la plus jolie femme de la cour. Elle l'a aimée tant qu'elle a vécu, et M. de Rivière lui conservait un souvenir touchant. Il portait habituellement sur son cœur, à côté du portrait de M. le comte d'Artois, un portrait d'elle qu'il me montra à Londres. Il ne commettait en cela aucune indiscrétion, sa liaison avec cette charmante personne ayant été connue de tout le monde. De retour en France, il se maria avec une femme qu'il adorait et dont il a fait constamment le bonheur. Il en a eu plusieurs enfants. M. de Rivière, outre son noble et beau caractère, avait beaucoup d'esprit. On pourrait imprimer plusieurs de ses lettres comme modèle de style, et dans la conversation, le mot d'à-propos ne lui manquait jamais. Un jour, par exemple, déjeunant à Pétersbourg chez Souvarov, qui avait pour lui de l'estime et de l'affection, ce général dit aux officiers russes, en le désignant, « Allons, messieurs, buvons aux plus braves !»« À votre santé, monsieur le maréchal !» répondit aussitôt M. de Rivière. Sous le titre de mémoire, M. le chevalier de Chazé a écrit la vie du duc de Rivière. Tous les documents nécessaires lui avaient été fournis pour qu'on ne pût contester la véracité d'un tel ouvrage, qui se lit avec un vif intérêt et qui fait honneur au cœur comme au talent littéraire de l'auteur. M. de Buffon. Je suis allé en 1785 avec mon frère et M. le comte de Vaudreuil dîner chez cet homme si célèbre comme savant et comme écrivain. Buffon était déjà fort vieux, puisqu'il est mort 3 ans après, âgé de 81 ans. Je fus d'abord frappé de la sévérité de sa physionomie. Mais dès qu'il se fut mis à causer avec nous, nous crûmes voir s'opérer une métamorphose, car son visage s'anima au point qu'on pouvait dire de lui, avec toute vérité, que le génie étincelait dans ses yeux. Nous le quittâmes pour aller à table. Lui resta dans son salon, ne mangeant plus alors que des légumes. Son fils et sa jolie belle-fille firent les honneurs du dîner, après lequel nous retournâmes au salon pour y prendre le café. Une conversation s'étant établie, M. de Buffon en fit presque tous les frais et parut se plaire à la prolonger. Il nous récita de mémoire plusieurs fragments de ses ouvrages qui nous charmèrent doublement par la chaleur et l'expression qui prêtaient l'accent du génie. Nous le quittâmes assez tard avec un grand regret et j'étais tellement enthousiasmé de lui que j'enviais le sort de son fils et de sa belle-fille qui pouvaient tous les jours le voir et l'entendre. Monsieur Lepelletier de Morfontaine. Monsieur Lepelletier de Morfontaine, qui a été longtemps prévôt des marchands sous Louis XVI, avait de l'esprit, de l'instruction, de la bonhomie, un ton parfait, et pourtant je n'ai connu personne plus chargé que lui de ridicule. Il était assez grand, très maigre, à 55 ans au moins qu'il avait quand je l'ai connu, son visage était pâle et fané, Il mettait pour s'animer le teint une forte couche de rouge sur ses joues et jusque sur son nez. La chose était évidente au point qu'il en convenait en nous disant qu'il ferait peur s'il ne portait point de rouge. Cette figure, déjà assez comique, était entourée d'une coiffure tellement étrange qu'en la voyant pour la première fois, j'éclatai de rire. C'était une immense perruque fiscale dont le toupet s'élevait en pointe comme un pain de sucre, accompagné de longues boucles qui tombaient sur les épaules. Le tout poudré à blanc. Ce n'est pas tout. Monsieur Lepelletier avait de fatales infirmités qu'il ne devait pas à son âge avancé, mais à une malheureuse nature. Il était obligé de tenir sans cesse dans sa bouche des pastilles odorantes et de se garder de parler aux gens de près. Il prenait plusieurs bains de pied dans le jour, il en prenait même la nuit, et portait constamment deux paires de souliers à double semelle. Tant de précautions n'empêchaient point qu'il ne fût impossible de tenir près de lui dans une voiture fermée. J'en ai fait une fois la triste expérience, ainsi que ma belle-sœur, en revenant de Mortefontaine. Eh bien, tel que le voilà, M. Lepelletier avait les plus grandes prétentions auprès des femmes et se croyait l'homme du monde le plus dangereux pour elles. Il parlait sans cesse de ses amours, de ses succès, de ses conquêtes, ce qui prêtait beaucoup à rire. Le chevalier de Coigny m'a raconté qu'étant allé un matin voir M. Lepelletier, il le trouva étendu sur une chaise longue, près d'une table couverte de fioles, de médicaments, de sachets, etc., et si pâle, car il n'avait pas encore mis son rouge, qu'en entrant dans sa chambre, M. de Coigny le crut mourant. « Ah, mon cher chevalier, dit-il aussitôt, que je suis ravi de vous voir. Vous allez me donner vos bons avis sur une chose qui m'occupe beaucoup. Il faut que vous sachiez que je viens de rompre toutes mes liaisons. Je suis libre, absolument libre, et vous, qui connaissez les plus jolies femmes de la cour, vous allez me dire à laquelle vous me conseillez d'adresser mes soins. » Le chevalier de Coigny était peut-être de notre société celui qui s'amusait le plus des ridicules de M. Lepelletier. On juge s'il saisit l'occasion. Il se mit à passer en revue avec lui les femmes les plus remarquables par leur beauté. Mais à toutes, M. Lepelletier trouvait quelques défauts qu'il repoussait. Cette scène dura longtemps. « Ma foi, mon cher, dit enfin le chevalier en éclatant de rire, puisque vous êtes si difficile, je vous conseille d'imiter le beau Narcisse et de devenir amoureux de vous-même. » C'est sous la prévôté de M. Lepelletier de Mortefontaine que le pont de la place Louis XV fut bâti et, à cette occasion, le roi lui donna le cordon bleu que l'on pouvait obtenir par charge lorsqu'on ne faisait point partie de la haute noblesse. Ce cordon bleu lui tourna tellement la tête qu'il le portait toujours. Je serais tenté de croire qu'il le mettait dès le matin sur sa robe de chambre. Un jour, je l'aperçus grimpant sur les rochers qui bordent le lac de Mortefontaine et costumé selon son ordinaire, comme s'il allait partir pour Versailles. Je lui criai d'en bas, où je me promenais, plongé dans mes rêveries champêtres, que son cordon bleu était tout à fait ridicule au milieu de cette belle nature. Il ne m'en voulut pas un instant de lui avoir ainsi fait sentir son travers. Car après tout, il faut dire que ce pauvre monsieur Lepelletier était le meilleur homme du monde. Voltaire. J'étais à la Comédie-Française le jour que Voltaire vint y voir représenter sa tragédie d'Irène. De ma vie, je n'ai assisté à un pareil triomphe. Quand le grand homme entra dans sa loge, les cris, les applaudissements furent tels que je crus que la salle allait s'effondrer. Il en fut de même au moment où on lui plaça la couronne sur la tête et le célèbre vieillard était si maigre, si chétif, que d'aussi vives émotions me faisaient trembler pour lui. Quant à la pièce, on n'en écouta pas un mot, et cependant Voltaire put quitter la salle, persuadé qu'Irène était son meilleur ouvrage. J'avais une extrême envie d'aller le voir à l'hôtel de M. de Villette, chez qui il logeait. Mais, ayant entendu dire que, tout flatté qu'il était des visites sans nombre qui lui étaient faites, il en éprouvait une grande fatigue, je renonçai donc à mon projet. Je puis donc dire n'avoir été chez lui qu'en peinture, et voici comment. Hall, le plus habile peintre en miniature de cette époque, venait de finir mon portrait. Ce portrait était extrêmement ressemblant, et Hall étant allé voir Voltaire, le lui montra. Le célèbre vieillard, après l'avoir regardé longtemps, le baisa à plusieurs reprises. J'avoue que je fus très flatté d'avoir reçu une pareille faveur et que je suis fort bon gré à Hall d'être venu me l'affirmer. Le prince Henri de Prusse. Lorsque la comtesse de Sabran me présenta chez elle au frère du grand Frédéric, je voyais ce prince pour la première fois et je ne saurais dire combien je le trouvais laid. Il pouvait avoir à peu près 55 ans à cette époque, le roi de Prusse étant de beaucoup son aîné. Il était petit, mince, et sa taille, quoiqu'il se tînt fort droit, n'avait aucune noblesse. Il avait conservé un accent allemand très marqué et grasseyait excessivement. Quant à la laideur de son visage, elle était au premier abord tout à fait repoussante. Cependant, avec deux gros yeux, dont l'un regardait à droite et l'autre à gauche, son regard n'en avait pas moins je ne sais quelle douceur, qu'on remarquait aussi dans le son de sa voix, et lorsqu'on l'écoutait, ses paroles étaient toujours d'une obligeance extrême. On s'accoutumait à le voir. Sa valeur guerrière est assez connue pour qu'il soit inutile d'en parler. On sait qu'il aimait la gloire en digne frère de Frédéric. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il était aussi sensible à un trait d'humanité qu'à un trait d'héroïsme. Il était bon et faisait un très grand cas de la bonté dans les autres. Il avait pour les arts, et surtout pour la musique, une véritable passion, au point qu'il voyageait avec son premier violon afin de pouvoir cultiver son talent en route. Ce talent était assez médiocre, mais le prince Henri ne laissait échapper aucune occasion de l'exercer. Pendant tout le séjour qu'il a fait à Paris, il venait constamment à mes soirées musicales, ne redoutait point la présence des premiers virtuoses, et je ne l'ai jamais vu refuser de faire sa partie dans un quatuor à côté de Viotis qui jouait le premier violon. Le comte d'Albaret. Un autre amateur forcené de musique qui vivait à Paris à la même époque était le comte d'Albaret. Non seulement il s'empressait d'aller à tous les concerts, mais quoique sa fortune ne fût pas très considérable, il avait une musique à lui, comme en ont les souverains. Il logeait et nourrissait dans sa maison 8 ou 10 musiciens auxquels il payait des appointements, leur permettant en outre de prendre des écoliers dehors aux heures qu'il leur laissait libres. Ces artistes, comme on doit l'imaginer, étaient tous du second ordre. La chanteuse, par exemple, qui ne chantait que des airs italiens, avait une assez belle voix, mais ne pouvait passer pour une prima donna, et je me souviens qu'il m'avait donné pour maître de chant un homme dont le savoir était médiocre. Il en était de même de ses instrumentistes, pris isolément, sans en accepter son premier violon. Et cependant, tous ces gens-là avaient une telle habitude de marcher ensemble et faisaient un si grand nombre de répétitions qu'on n'entendait nulle part de la musique aussi bien exécutée que chez le comte d'Albaret. Aussi, tous les amateurs se rendaient-ils avec empressement à ces concerts. Ils avaient lieu le dimanche matin. J'y suis allé plusieurs fois et j'en suis toujours sorti charmé. Le comte d'Espinchal. Voici un homme dont les affaires, les plaisirs, en un mot, toute l'existence, se bornaient à savoir, jour par jour, tout ce qui se passait dans Paris. Le comte d'Espinchal était toujours instruit le premier d'un mariage, d'une intrigue amoureuse, d'une mort, de la réception ou du refus d'une pièce de théâtre, etc. Au point que, si l'on avait besoin d'un renseignement quelconque sur qui ou sur quoi que ce fût au monde, on se disait aussitôt « il faut le demander à d'Espinchal ». On imagine bien que, pour être aussi parfaitement au fait, il fallait qu'il connût une prodigieuse quantité de gens. Aussi ne pouvait-il marcher dans la rue sans saluer quelqu'un à chaque pas, et cela depuis le grand seigneur jusqu'au garçon de théâtre, depuis la duchesse jusqu'à la grisette et la fille entretenue. En outre, le comte d'Espinchal allait partout. On était certain, ne fût-ce que pour un moment, de le voir dans les promenades, aux courses de chevaux, au salon, le soir, à 2 ou 3 spectacles. Je n'ai vraiment jamais su quel temps il prenait pour se reposer et même pour dormir, car il passait presque toutes ses nuits dans les bals. À l'opéra, ainsi qu'à la Comédie-Française, il savait au juste à qui appartenaient toutes les loges, dont la plupart, il est vrai, étaient louées à l'année à cette époque. On le voyait se les faire ouvrir l'une après l'autre pour rester 5 minutes dans chacune, car trop d'affaires l'appelaient de tous côtés pour qu'il fît des visites longues. Il n'y mettait que le temps d'apprendre quelques nouvelles de plus. Heureusement, le comte d'Espinchal n'était point méchant, autrement il aurait pu brouiller bien des ménages, causer bien des ruptures de liaison d'amour ou d'amitié, enfin nuire à beaucoup de gens. Il n'était pas même très bavard et savait se taire avec les personnes intéressées dans les mystères sans nombre qu'il parvenait à découvrir. Il suffisait à sa satisfaction personnelle d'être parfaitement au courant de tout ce qui se passait à Paris et à Versailles. Mais pour parvenir à ce but, il ne négligeait aucun soin, et bien certainement, il était plus au fait de 1000 choses que ne l'était le lieutenant de police. Une pareille manie est si bizarre qu'afin de faire croire à sa réalité, je vais raconter un trait qui, dans le temps, a été connu de tout Paris. Un jour, ou plutôt une nuit, le comte d'Espinchal se trouvait au bal de l'Opéra. Ce bal n'était point encore ce qu'il est devenu maintenant. La bonne compagnie le fréquentait et les plus honnêtes femmes de la cour et de la ville ne se refusaient pas le plaisir d'y aller, masquées jusqu'aux dents, comme on disait. Mais pour M. d'Espinchal, il n'existait point de masque. Du premier coup, il reconnaissait son monde. Aussi, tous les dominos le fuyaient-ils comme la peste. Il se promenait dans la salle quand il remarqua un homme qu'il ne connaissait pas et qui courait de côté et d'autre, pâle, effaré, s'approchant de toutes les femmes en dominos bleus, puis s'éloignant aussitôt d'un air désespéré. Le comte n'hésite pas à l'aborder et lui dit avec intérêt « Vous me paraissez en peine, monsieur. Si je pouvais vous être bon à quelque chose, j'en serais charmé. » « Ah, monsieur, répond l'inconnu, je suis le plus malheureux des hommes. Imaginez que ce matin, je suis arrivé d'Orléans avec ma femme qui m'a tourmenté pour la mener au bal de l'Opéra. Dans cette foule, je viens de la perdre et la pauvre petite ne sait pas le nom de l'hôtel, pas même le nom de la rue où nous sommes descendus. » « Calmez-vous, calmez-vous, dit le comte d'Espinchal, je vais vous conduire près d'elle. » « Madame, votre femme est assise dans le foyer, à la seconde fenêtre. » C'était la dame, en effet. Le mari, transporté de joie, se confond en remerciements. « Mais comment se fait-il, monsieur, que vous ayez deviné ?»« Rien n'est plus simple, répond le comte d'Espinchal. Madame étant la seule femme du bal que je ne connaisse pas, j'avais déjà bien pensé qu'elle devait être arrivée de province très nouvellement. Quand je suis revenu à Paris sous le consulat, j'ai revu le comte d'Espinchal. « Eh bien, lui dis-je, vous devez être furieusement désorienté. Vous ne connaissez plus personne dans les loges de l'Opéra et de la Comédie. » Pour toute réponse, il leva les yeux au ciel. Il est mort peu de temps après, d'ennui sans doute, car il n'était pas extrêmement vieux. On assure qu'avant de mourir, il brûla une énorme quantité de notes qu'il avait l'habitude d'écrire chaque soir. J'avais en effet entendu parler de ces notes par plusieurs personnes, que peut-être elles effrayaient. Il est certain qu'elles auraient pu fournir la matière d'un ouvrage très piquant, mais bien certainement très scandaleux. La comtesse de Flahaut. Parmi les femmes les plus distinguées que j'ai connues avant la Révolution, je ne dois pas oublier l'auteur d'Athèle de Sénanges, d'Eugène de Rotessin et de plusieurs autres ouvrages charmants que tout le monde a lus pour le moins une fois. Madame de Flahaut, aujourd'hui Madame de Souza, n'écrivait point encore quand j'ai fait connaissance avec elle. Son fils, qui est maintenant pair de France, était alors un enfant de 3 ou 4 ans. Elle-même était fort jeune. Elle avait une jolie taille, un visage charmant, les yeux les plus spirituels du monde et tant d'amabilité qu'un de mes plaisirs était d'aller passer la soirée chez elle, où le plus souvent je la trouvais seule. À mon retour en France, j'avais un grand désir de revoir Madame de Flahaut. Une multitude d'affaires, d'occupations diverses m'en ont empêché pendant si longtemps que je n'ai plus osé me présenter chez elle. Si le hasard fait qu'elle lise ces lignes, elle saura du moins que je suis loin de l'avoir oubliée. Mademoiselle Quinault. Madame de Verdun, une de mes meilleures amies, me fit faire connaissance avec Mademoiselle Quinault, qui, après avoir été célèbre comme grande actrice dans la tragédie et dans la comédie, l'était encore comme une des femmes les plus spirituelles et les plus instruites de son temps. Elle avait quitté le théâtre en 1741. Amie intime de M. d'Argenson et de D'Alembert, son salon était devenu le rendez-vous de tout ce que Paris avait de distingué en gens de lettres et en gens du monde, et l'on recherchait avec empressement le plaisir de passer quelques moments avec elle. À l'époque où je l'ai connue, Mademoiselle Quinault, malgré son grand âge, conservait tant d'esprit et tant de gaieté qu'en l'écoutant, on la voyait jeune. Sa mémoire était prodigieuse et certes, elle avait eu le temps de l'orner, car elle avait alors 85 ans. Entre 1000 anecdotes que lui fournissaient sans cesse ses souvenirs, elle nous raconta qu'étant allée un jour voir Voltaire, avec qui elle était fort liée, elle trouva le grand homme au lit. Il lui parla d'une tragédie de lui, pour laquelle il désirait que Lequin mît une écharpe, mais une écharpe placée de certaine façon, et dans la chaleur de la description, voilà Voltaire qui jette ses couvertures, relève sa chemise pour en former une écharpe, laissant totalement à découvert son corps décrépit aux yeux de Mademoiselle Quinault, fort embarrassée de sa personne. Mademoiselle Quinault n'est morte qu'en 1783, plus que nonagénaire. Madame de Verdun, qui était allée chez elle un matin, fut surprise de la trouver parée, couverte de rubans couleur de rose, mais dans son lit. « Comment ?» dit Madame de Verdun, « je ne vous ai jamais vue si coquette. » « Je me suis parée ainsi, » répondit Mademoiselle Quinault, « parce que je dois mourir aujourd'hui. » Le soir même, en effet, elle avait cessé de vivre. Le comte de Rivarol. Mon frère me présenta un matin le comte de Rivarol, que son esprit faisait extrêmement rechercher dans les plus brillantes sociétés de Paris, même avant qu'il eût rien écrit. Comme je ne l'attendais point, j'étais dans mon atelier et je mettais ce que nous appelons l'harmonie à plusieurs tableaux que je venais de terminer. On sait que ce dernier travail ne permet aucune distraction, en sorte qu'en dépit du désir que j'avais toujours eu d'entendre causer M. de Rivarol, je jouis fort peu du charme de sa conversation, tant j'étais préoccupé. Il parlait en outre avec une telle volubilité que j'en étais comme étourdi. Je remarquai cependant qu'il avait une belle figure et une taille extrêmement élégante. Il n'en dut pas moins me trouver si maussade que je ne l'ai plus revu chez moi. Il se peut, à la vérité, qu'un autre motif l'ait empêché d'y venir. Il passait sa vie avec le marquis de Chancenay, qui s'est toujours montré fort méchant pour moi. Le marquis de Chancenay, sans avoir ni tout le talent ni la force de tête de l'auteur du discours sur l'universalité de la langue française, avait beaucoup d'esprit qu'il employait habituellement à déchirer le prochain. Il avait, comme M. de Bièvre, le goût des calembours, et il en faisait sans cesse, en sorte que Rivarol l'appelait l'épigramme de la langue française. C'est le marquis de Chancenay qui, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, demanda gaiement à ses juges s'il lui était permis de chercher un remplaçant pour la garde nationale. Paul Jones. J'ai souvent soupé chez Madame Tillaurier, sœur de Madame de Bonneuil, avec ce célèbre marin qui a rendu tant de services à la cause américaine et fait tant de mal aux Anglais. Sa réputation l'avait précédé à Paris, où l'on savait dans combien de combats, avec sa petite escadre, il avait triomphé des forces 10 fois supérieures de l'Angleterre. Néanmoins, je n'ai jamais rencontré d'homme aussi modeste. Il était impossible de le faire jamais parler de ses hauts faits. Mais sur tout autre sujet, il causait volontiers avec infiniment d'esprit et de naturel. Paul Jones était écossais de naissance. Je crois qu'il aurait beaucoup désiré devenir amiral dans la marine française. J'ai même entendu dire que, lorsqu'il revint à Paris une seconde fois, il en fit la demande à Louis XVI, qui le refusa. Quoi qu'il en soit, il alla d'abord en Russie, où le comte de Ségur le présenta à l'impératrice Catherine II, qui l'accueillit avec la plus grande distinction et le fit dîner avec elle. Il quitta Pétersbourg pour aller joindre Souvarov et le prince de Nassau, avec lesquels il se distingua de nouveau dans la guerre contre les Turcs. De retour à Paris, il y est mort pendant la Révolution, mais avant la Terreur. Mesmer. Comme j'entendais parler sans cesse de ce fameux charlatan, j'eus la curiosité d'assister une fois à ce qu'il appelait ses séances, afin de juger par moi-même cette jonglerie. En entrant dans la première salle où se tenaient les partisans du magnétisme animal, je trouvai beaucoup de monde rangé autour d'un grand baquet bien goudronné. Hommes et femmes, pour la plupart, se tenaient par la main, formant la chaîne. Mon désir fut d'abord de faire partie de ce cercle. Mais je crus m'apercevoir que l'homme qui allait devenir mon voisin avait la gale. On sent si je me hâtais de retirer ma main et de passer dans une autre pièce. Pendant le trajet, plusieurs affidés de Mesmer dirigeaient vers moi de toutes parts de petites baguettes de fer dont ils étaient munis, ce qui m'impatientait prodigieusement. Après avoir visité les différentes salles qui toutes étaient remplies comme la première de malades et de curieux, j'allais m'en aller lorsque je vis sortir d'une chambre voisine une jeune et grande demoiselle, assez jolie, que Mesmer tenait par la main. Elle était toute échevelée et jouait le délire, ayant grand soin pourtant de tenir ses yeux fermés. Tout le monde aussitôt entoura les deux personnages. « Elle est inspirée, » dit Mesmer, « elle devine tout, quoique parfaitement endormie. » Alors il la fit asseoir, s'assit devant elle, et lui prenant les deux mains, il lui demanda quelle heure il était. Je remarquai fort bien que le patron tenait ses pieds posés sur les pieds de la prétendue Sibylle, ce qui rendait facile d'indiquer l'heure et même les minutes. Aussi la demoiselle répondit-elle avec tant d'exactitude qu'elle se trouva d'accord avec toutes les montres des assistants. J'avoue que je sortis indigné qu'une pareille charlatanerie pût réussir chez nous. Ce Mesmer a gagné des monceaux d'or. Outre ses séances, qui, toujours fort suivies, lui ont rapporté immensément, ses nombreuses dupes firent en sa faveur une souscription qui s'éleva, m'a-t-on dit, à près de 500 000 francs. Mesmer, cependant, fut bientôt contraint d'aller jouir dans quelques lieux ignorés de la fortune qu'il venait d'amasser à Paris. Le bruit s'étant généralement répandu qu'il se passait à ces séances beaucoup de choses indécentes, les doctrines de ce jongleur furent soumises à l'examen de l'Académie des sciences et de la Société royale de médecine, et le jugement de ces deux corps savants sur le magnétisme animal fut tel qu'il obligea Mesmer à quitter la France. Aujourd'hui, que les baquets et les petites baguettes de fer ont disparu, nous voyons encore des personnes persuadées que telle ou telle femme, qui souvent ne sait pas lire, endormie par un magnétiseur, non seulement peut vous dire l'heure qu'il est, mais encore deviner votre maladie et vous indiquer le meilleur traitement à suivre. Grand bien fasse ces sibylles somnambules à ceux qui les consultent. Pour mon compte, si j'étais malade, j'aimerais mieux appeler un habile médecin éveillé. Messieurs Charles et Robert. J'ai vu monter en ballon les deux premiers hommes qui ont eu le courage de s'élever dans l'air avec une si frêle machine dont l'invention venait faite très récemment par Montgolfier. Ces deux hommes étaient Charles et Robert. Ils avaient posé leur ballon sur le grand bassin des Tuileries et, le jour fixé pour l'ascension, une foule telle que je n'en ai jamais vu de pareille remplissait le jardin. Quand on eut coupé les cordes et que le ballon s'éleva majestueusement à une si grande hauteur que nous le perdîmes de vue, l'admiration, la peur pour ces deux braves que portait la petite nacelle, firent pousser un cri général. Beaucoup de personnes, et j'avoue que j'étais du nombre, avaient les larmes aux yeux. Heureusement, on apprit peu d'heures après que Charles et Robert étaient descendus sans aucun accident à quelques lieues de Paris, dans un village où l'arrivée de ces êtres aériens dut faire une bien vive sensation. Monsieur Charles était membre de l'Académie des sciences et l'un de nos savants les plus distingués. C'était de plus un excellent homme, aimant la musique avec passion. Il faisait chaque année, dans son magnifique cabinet de physique, des cours extrêmement suivis, non seulement par les personnes occupées de sciences, mais aussi par les gens du monde.